Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 3 décembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature à la présidentielle de l'ancien chef de l'État, François Bozizé. Ouverture en Suisse du procès de l'ex-rebelle libérien Alieu Kosia pour des crimes pendant la guerre civile au Libéria. Les dirigeants européens saluent la mémoire de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, décédé du coronavirus. Plusieurs pays accélèrent les procédures d'homologation des vaccins anti-Covid pour qu'ils soient disponibles dans les prochains jours. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Centrafrique, la candidature à l'élection présidentielle de l'ancien chef de l'État, François Bozizé, a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La Cour constitutionnelle dit avoir invalidé la candidature de l'ancien chef de l'État, François Bozizé, parce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui le 31 mars 2014 devant la justice de son pays pour assassinat, arrestation, séquestration, détention arbitraire et torture. La juridiction soutient que selon les termes d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, le candidat fait l'objet de sanctions renouvelées le 28 juillet 2020 et il déroge aux critères de bonne moralité inscrits dans le code électoral. Évincé du pouvoir par un putsch en 2013, l'ONU a placé M. Bozizé sous sanctions en 2014, faisant geler ses avoirs à l'étranger et l'interdisant de voyager au motif qu'il a soutenu depuis son exil des milices coupables selon l'organisation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La Cour a aussi invalidé les candidatures de Jean-Michel Mandaba, Bertrand Bali-Kemba, Freddy Michael Guélé-Gongassoua et Armel Sayo pour des motifs de corruption et d'appartenance à des groupes armés. Avec le président Faustin Archange Touadéra, il reste 17 candidats en lice pour le premier tour du scrutin présidentiel du 27 décembre, couplé aux législatives.
En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a demandé une enquête interne sur des faits de corruption sous forme de tentative d'achat de députés en pleine crise avec le président Félix Tshisekedi qui gouverne en coalition avec la majorité parlementaire FCC, fidèle à Joseph Kabila. Alors que M. Tshisekedi doit annoncer sous peu des solutions pour sortir de cette crise, la présidente pro-Kabila de la Chambre basse, Jeanine Mabunda, a saisi un comité de l'Assemblée pour faire la lumière sur des allégations de corruption. Le procès historique de l'ex-commandant rebelle libérien Alieu Kosia, accusé d'avoir commis des atrocités entre 1993 et 1995 pendant la guerre civile dans son pays, s'est ouvert aujourd'hui en Suisse. Le point avec Bagassi Koura.
Détenu depuis novembre 2014, après son arrestation en Suisse, Alieu Kosia, 45 ans, s'est présenté devant le tribunal pénal fédéral à Benin-Zone en compagnie de son avocat commis d'office, maître Dimitri Giannoli. Les débats ne sont pas à huis clos, mais le nombre de places dans la salle d'audience est extrêmement restreint en raison de la crise sanitaire. Interrogé par le président de la Cour, Jean-Luc Bacher, Kosia a souligné qu'il était en prison depuis 6 ans et 1 mois. Il est ressorti des premiers échanges que l'accusé conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Aucun libérien n'a été condamné jusqu'ici dans son pays ou à l'étranger pour des crimes de guerre commis pendant la guerre civile au Libéria. En outre, comme l'explique Human Rights Watch, Alieu Kosia est le premier individu à être jugé pour crime de guerre par un tribunal pénal non militaire en Suisse. Un des principaux acteurs du conflit, l'ex-chef de guerre devenu président, Charles Taylor, a été condamné en 2012 pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre perpétrés en Sierra Leone, voisine du Libéria, mais n'a pas été inquiété pour les atrocités commises dans son propre pays. Et d'anciens chefs de guerre comme Prince Johnson, qui avait sauvagement assassiné Samuel Doe, vit librement au Libéria. Le conflit libérien a fait quelque 250 000 morts entre 1989 et 2003.
En Guinée, la journée ville morte à l'appel de l'opposant Seloudalin Diallo a été inégalement suivie à Conakry. Des commerces étaient fermés à Amdalaï, Taouya, Bambeto et Matam. L'appel a été ignoré à Kaloum et dans le centre-ville. Plusieurs personnes ont été arrêtées après la mort d'un policier à Wanindara mardi sans qu'il n'y ait de suspect avéré, a indiqué le ministre de la Sécurité Albert Damontang Camara. Des dizaines de policiers et gendarmes ont poursuivi leurs opérations ce jeudi dans plusieurs quartiers de la capitale. Londres a déployé cette semaine au Mali 300 hommes dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU, a annoncé le ministère britannique de la Défense. La mission britannique basée à Gao sera composée de 250 soldats et d'une équipe de soutien de 50 personnes. Dotée de matériel de reconnaissance, elle aura pour tâche de mener des patrouilles pour récolter des renseignements et de dialoguer avec la population locale pour aider l'ONU à répondre aux menaces posées par les violences extrémistes, a précisé le ministère dans un communiqué. Des hauts gradés de l'armée soudanaise vont être interrogés par une commission d'enquête à partir de mi-décembre concernant la dispersion d'une manifestation qui avait fait une centaine de morts, a rapporté l'agence Sunna. Le 3 juin 2019, des hommes armés en tenue militaire avaient violemment dispersé un sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum. Le Conseil militaire de transition avait dit regretter des erreurs après avoir demandé à ses commandants un plan pour disperser les manifestants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plusieurs pays accélèrent les procédures d'homologation des vaccins anti-Covid-19 pour qu'ils soient disponibles dans les prochains jours. C'est le cas en Europe, aux États-Unis, en Russie et en Chine. Mohamed Oumfa fait le point.
Le gouvernement britannique a accordé son feu vert aux vaccins de Pfizer et BioNTech après la recommandation de son agence indépendante de réglementation des médicaments. La MHRA a fait travailler ses équipes jour et nuit pour traiter les données au fur et à mesure qu'elles devenaient disponibles. C'est un processus similaire pour l'Agence européenne du médicament, mais elle a préféré une approche commune dans les 27 pays de l'Union européenne, quitte à prendre plus de temps. Elle doit se prononcer le 29 décembre au plus tard sur le même vaccin et d'ici au 12 janvier pour celui de Moderna. Aux États-Unis, la procédure est plus lente. En plus de son évaluation interne, la FDA interroge un conseil consultatif externe qui va se prononcer pour le vaccin de Pfizer le 10 décembre et sur celui de Moderna le 17. La Chine autorise depuis cet été les inoculations urgentes des vaccins de la société Sinopharm non encore homologués. Au 20 novembre, près d'un million de personnes en ont déjà bénéficié. Le Maroc, qui mise sur le même vaccin, n'attend que le feu vert des autorités chinoises. En Russie, le président Vladimir Poutine a chargé le gouvernement de simplifier la procédure. Il a ordonné le lancement la semaine prochaine de vaccination à grande échelle des populations à risque.
Les anciens présidents américains Barack Obama, George Bush et Bill Clinton se disent prêts à se faire vacciner publiquement contre le coronavirus afin d'encourager leurs concitoyens à en faire de même. En France, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est décédé mercredi soir du coronavirus à 94 ans. Les hommages à ce fervent européen se multiplient. L'affaire des diamants de Bokassa est l'une des grandes polémiques qui a marqué son septennat. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Élu à 48 ans, Valéry Giscard d'Estaing a été le plus jeune président de la Ve République. Menant une politique de centre-droit, il a été à l'origine de plusieurs réformes, dont le droit de vote à 18 ans ou l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse. Européen convaincu, il avait présidé la Convention pour l'Europe dans les années 2000. Sa politique africaine a été marquée par plusieurs événements. En 1978, la Légion étrangère intervient à Kolwezi, au Zaïre, alors que des rebelles avaient saisi cette ville minière stratégique. En 1979, l'opération Kaban des services secrets français permet la destitution de Jean Bedel Bokassa, l'empereur de la Centrafrique. Peu après, Valéry Giscard d'Estaing se retrouve au centre de l'affaire dite cite, des diamants de Bokassa, une polémique embarrassante pour VGE qui aurait reçu de Bokassa de nombreux diamants et à plusieurs reprises. Valéry Giscard d'Estaing ne sera pas réélu en 1981, il sera remplacé par François Mitterrand.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gipour.
D'importantes organisations de planteurs de cacao de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ont menacé jeudi de boycott les multinationales du chocolat qui refuseraient de payer le différentiel de revenus décent, une prime de $400 par tonne de cacao en sus du prix du marché, ont déclaré quatre organisations de cacao-culteurs ayant réuni quelques 500 délégués à Yamoussoukro. Les prix mondiaux des denrées alimentaires de base, céréales, sucre, huile et produits laitiers ont atteint en novembre leur niveau le plus élevé depuis près de 6 ans, a indiqué la FAO. Une hausse vertigineuse de 14,5% par rapport à octobre est intervenue sur les huiles végétales. Aux États-Unis, entre le 22 et 28 novembre, 712 000 personnes se sont inscrites au chômage, soit 75 000 de moins que la semaine précédente, a annoncé le département du travail. Toutefois, lors de la semaine précédente, celle de Thanksgiving, le nombre d'Américains ayant touché le chômage est tombé sous la barre des 6 millions, soit une baisse de 569 000, précise le département du travail.
À présent les sports, présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Mauritanie 2021, en raison de leur statut de finaliste, l'Ouganda et la Tanzanie ont tout de même dû se départager lors du show final du tournoi régional CECAFA des moins de 20 ans. L'Ouganda a devancé la Tanzanie pays hôte 4-1 pour remporter le championnat junior d'Afrique de l'Est et du Centre hier au stade Black Rimo à Arusha. La Tanzanie a atteint la finale après avoir battu le Soudan du Sud 1-0 en demi-finale, tandis que l'Ouganda a surpris le Kenya 3-1 en demi. Le Soudan du Sud termine donc troisième après avoir battu le Kenya 2-1. Et puis, ce fait insolite rectifié par la CAF, un individu se faisant passer pour Constant Omari, président de la CAF par intérim, depuis la suspension d'Ahmad Ahmad, a envoyé un courrier aux différents présidents de fédération. Le courrier évoquait les prochaines élections présidentielles à la tête de la CAF et un soutien financier. Dans un communiqué, la CAF dit ne pas être l'auteur de ces emails envoyés au nom de Constant Omari et dit saisir la justice pour démanteler cette entreprise criminelle. Fin hier des matchs de la 5e journée de la Ligue des champions en Europe. Grosse déception pour Manchester United qui s'est incliné à Old Trafford 1-3 devant le Paris Saint-Germain. Le RB Leipzig a battu Istanbul Başakşehir 4-3. 1-0 pour le FC Krasnodar qui recevait Rennes. Carton plein 4-0 pour Chelsea qui s'est déplacé en Espagne pour jouer le FC Séville avec un quadruplé du français Olivier Giroud. 3-0 pour les Belges du club Bruges qui recevait le Zénith Saint-Pétersbourg. 1-1 entre le Borussia Dortmund et la Lazio Rome. 3-0 pour le FC Barcelone devant Ferencváros. Et 3-0 également pour la Juventus Turin face au Dynamo de Kiev. Ici, aux États-Unis, le meneur de jeu des Rockets, Russell Westbrook, quitte Houston pour rejoindre les Washington Wizards, a annoncé la franchise NBA de la capitale fédérale. En échange, les Rockets ont obtenu le transfert du meneur John Wall, premier choix de la draft 2010 qui effectue le trajet inverse. Après une seule saison passée à Houston, Westbrook, 32 ans, retrouve à Washington Scott Brook, l'ancien entraîneur des Oklahoma City Thunder, où il a évolué 11 saisons. Westbrook a une moyenne en carrière de 23,2 points, 8,3 passes décisives et 7,1 rebonds en 878 matchs. Il compte 146 triple-doubles en carrière, ce qui le place au deuxième rang de tous les temps derrière Oscar Robertson. John Wall, quant à lui, figure aux côtés de Magic Johnson et Oscar Robertson comme les seuls joueurs de l'histoire de la NBA avec des moyennes en carrière d'au moins 19 points, 9 passes décisives et 4 rebonds par match.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée ce jeudi 3 décembre. Le thème de cette année est « Reconstruire en mieux vers un monde post-Covid inclusif, accessible et durable ». Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes handicapées représentent 15% de la population dans le monde. L'objectif de cette journée, célébrée depuis 1992, est de promouvoir leurs droits et leur bien-être. Abdourahmane Dia a joint à Kinshasa le fondateur de l'ONG Jeunes Vivants avec Handicap, Eloy Kingezé.
Nous le célébrons de notre façon aussi, étant handicapés dans notre société. Et nous continuons toujours à encourager les personnes qui sont appelées handicapées de ne pas dire que parce qu'ils sont handicapés, ils doivent cesser de faire ce qu'ils peuvent faire. Alors nous les encourageons à prendre des initiatives qui peuvent les aider à être utiles dans la société. Et surtout, c'est aussi important dans notre communauté.
Alors, cette année, dans le contexte de COVID-19, comment est-ce que la pandémie affecte la communauté des personnes handicapées?
Ça n'a pas été facile pendant la période du coronavirus. On est en train de vivre jusqu'à maintenant. Ça continue toujours à ravager le monde. Et au Congo, nous l'avons appliqué avec beaucoup de tristesse, et surtout déjà aux personnes handicapées. Déjà, à la base, ils sont butés des moyens de déplacement, même la façon de se trouver de quoi manger, ce n'était pas facile pour eux. Et certainement, ici à Kin, il y a des gens qui sont déjà habitués à sortir chaque jour pour aller se trouver de quoi manger. Et avec tout ce qui est arrivé, Corona et tout, ça a vraiment perturbé certaines vies des personnes handicapées. Et on a regretté aussi quelques-uns qu'on a perdus aussi pendant ces moments. Mais on a quand même vécu avec. Et nous, en tant qu'ONG, on est venu quand même en aide à quelques structures et sur quelques personnes handicapées qu'on a aidées et par des vivres, des gels pour se protéger, des masques. Et nous continuons toujours à lutter pour mettre fin à cette propagation.
Alors, l'exclusion dans le recrutement, dans l'éducation, c'est un peu quelque chose que les personnes handicapées vivent, mais avec le développement du télétravail et du téléenseignement, est-ce que vous pensez que c'est une opportunité aussi?
Oui, exactement. Et c'est ce que je dis. La pandémie nous a appris des bons côtés, des choses qu'on nous semblait oublier. Et aujourd'hui, je me dis, en tant qu'un handicapé, aujourd'hui, avec ce qu'on a eu à vivre, télétravail et tout, et ça ne fait pas encore exclure une personne handicapée parce qu'il faut qu'il puisse venir au bureau, travailler avec vous et voir son handicap. Mais plutôt, dès qu'il est à la maison, devant son ordi, il peut toutefois travailler et rendre service à la société. Les problèmes d'emploi, aujourd'hui, on en parle, surtout dans notre société. Il y a un sérieux problème tout à l'heure. C'est un sérieux problème aussi qu'on doit lancer un message peut-être aux responsables des entreprises qui ne veulent pas au moins donner la chance ou l'opportunité aux personnes handicapées qui sont compétentes.
C'était Eloy Kingezé, fondateur de l'ONG Jeunes Vivants avec Handicap. Il était joint à Kinshasa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Mali, l'hippodrome de Bamako a rouvert ses portes récemment pour les traditionnelles courses de chevaux le dimanche, après plusieurs mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19. Cependant, les compétitions équestres pourraient subir encore un arrêt après une autre vague de coronavirus. Un reportage d'Annie Risenberg à Bamako, le récit est de Yakuba Ouedraogo.
Tous les dimanches, depuis 1946, de nombreux spectateurs et parieurs affluent dans le quartier de l'hippodrome à Bamako pour regarder les courses de chevaux. Elles sont suivies avec beaucoup de passion. Mahamadou Tangara était spectateur dans son enfance. Maintenant, il est devenu jockey professionnel. Il a remporté de nombreuses courses et même représenté le Mali à l'étranger. Depuis son écurie à côté de l'hippodrome, sur l'une des plus grandes artères de Bamako, Tangara explique comment il a décidé de poursuivre ce rêve.
J'ai vu le grand jockey, comment il courait les chevaux.
Le cheval a toujours occupé une place importante dans la longue histoire du Mali. Les différents empires qui se sont succédés dépendaient des chevaux pour le transport et pour la force de leurs armées. Sous la domination coloniale française, les courses de chevaux autour d'une piste circulaire ont été introduites au Mali au début des années 1900. Mamadou Diarra rappelle la place importante du cheval au Mali depuis le bureau de la Fédération des sports équestres, dont il est le commissaire général.
Il y a trop de manifestations culturelles qui se font par cheval, à dos de cheval, et même autrefois, avant la période précoloniale.
En mars dernier, les courses à l'hippodrome ont été brusquement arrêtées à cause du Covid-19. Pour les jockeys comme Tangara, cela signifiait une perte totale de revenus. Chaque dimanche, un jockey en remportant une course pouvait gagner entre 50 000 et 100 000 francs CFA.
Moi, j'ai senti la galère sur moi. La galère parce que si on travaille, on gagne. Si on ne travaille pas, on ne gagne pas. Donc, on a fait 8 mois, on ne travaille pas.
Les courses ont donc repris le 15 novembre. Le public enthousiaste est aussitôt revenu autour de la piste où les chevaux soulèvent une poussière rouge dans leur galop pour être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Avant la course, Yakuba Dansoko, journaliste sportif et annonceur, explique au public près de l'hippodrome l'importance de ces courses.
Les sports équestres jouent ce premier rôle en termes de public qui assiste aux différentes activités. C'est énorme.
Mais deux semaines après la réouverture de l'hippodrome, les cas de Covid-19 ont à nouveau fortement augmenté au Mali. Certains jockeys et organisateurs portent des masques, mais la plupart des spectateurs sont indifférents à ces précautions. Les officiels discutent maintenant de nouvelles mesures contre le Covid-19 qui pourraient inclure l'arrêt de ces courses. Les jockeys perdraient à nouveau leur gagne-pain, mais Dansoko dit que la communauté est prête à accepter un autre arrêt si cela doit sauver des vies humaines.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les allégations de fraude électorale faites par le président américain Donald Trump ont semé le doute dans l'esprit de nombreux républicains. La Géorgie, qui n'a pas voté pour un candidat démocrate depuis 1992, a effectué des recomptages après les élections. Elizabeth Lee de la Voix de l'Amérique revient sur la diversité d'opinion parmi les républicains sur le résultat de la présidentielle. Le récit est de Jacques Aristide.
Avec un demi-million d'habitants, Atlanta est la plus grande ville de Géorgie. Brandon Nevens a déménagé ici de San Francisco il y a 4 ans. Il travaille dans l'industrie de la technologie et voit Atlanta comme une terre d'opportunités, un endroit plus abordable.
Issu d'une communauté minoritaire et étant aussi un homme gay, je ne me suis jamais senti attaqué ici. Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir été jugé.
Brandon Nevens, qui avait voté pour Barack Obama, a décidé de voter pour Trump il y a 4 ans et à nouveau en 2020.
J'ai choisi Trump parce qu'il était le républicain qui parlait le plus franchement. Il y a une très importante génération ou un groupe de personnes dans ce pays qui sont laissées pour compte. Cela a vraiment résonné en moi. Il était dans Le Prince de Bel-Air, vous savez, il était dans toutes ces émissions africaines-américaines, je dirais. Je n'ai jamais vu ce côté qui était maintenant dépeint de lui. Vous savez, une personne raciste.
Et quid du résultat des élections?
S'il y a quelque chose à dénoncer, dénoncez-la. Sinon, passez à autre chose.
L'enseignante Megan Smith se sent, elle, plus concernée par l'issue du scrutin.
Je pense qu'il y a eu fraude dans cette élection. Je pense qu'il y a de la fraude à chaque élection. Mais je pense que c'était plus répandu dans cette élection que par le passé. Et je pense qu'il est très important que nous allions au fond des choses. Car sans des élections libres et équitables, nous n'avons vraiment pas grand-chose à défendre en tant qu'Américains.
Les participants à cette réunion de jeunes républicains acceptent d'avoir des points de vue divergents sur les sujets de débat, dont celui ayant trait aux élections. Alan English a toujours voté pour un candidat républicain.
Nombreux sont ceux qui ont des opinions opposées. Nous ne suivons pas tous la même voie. Honnêtement, je dirais que le parti est un peu divisé sur cette élection. La moitié des gens sont convaincus que cette élection a été volée. L'autre moitié est persuadée que c'est le résultat sorti des urnes.
La course présidentielle serrée en Géorgie reflète les changements en cours dans l'État, dû notamment aux personnes venues s'installer dans cette partie du pays, ce qui crée plus de diversité politique. Les divergences de vues sur Donald Trump parmi les républicains sont un autre facteur qui a fait que le président n'a pas décroché le résultat escompté en Géorgie, d'après le politologue Scott Buchanan.
Il y a des républicains qui ont voté pour Biden ou qui, tout simplement, n'ont pas voté pour le président car les autres candidats républicains dans d'autres courses n'auraient pas fait aussi bien qu'ils l'ont fait.
Et à quoi ressemblera le parti républicain dans 4 ans?
Donald Trump se présentera-t-il à nouveau? Je ne serais pas surpris.
Brandon Nevens envisage de voter à nouveau pour Trump.
Faute d'un autre bon candidat du côté républicain, oui, je le ferai certainement. Je veux dire, l'Amérique de Trump, ça a été assez amusant. Il fallait s'attendre à tout, mais en même temps, je pense qu'il est temps que d'autres membres du Parti républicain se réveillent peut-être.
Reste à voir si la prochaine course présidentielle en Géorgie sera aussi serrée que celle qui vient d'avoir lieu.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Alors que le soi-disant califat du groupe État islamique en Irak et en Syrie est décimé, les États-Unis continuent d'être préoccupés par l'émergence de ce groupe et ses affiliés dans d'autres régions. Le 10 novembre, les États-Unis et le Nigeria ont organisé une réunion virtuelle avec les membres de la coalition mondiale pour défaire le groupe État islamique avec les représentants des pays ouest-africains et des organisations régionales pertinentes pour discuter de la menace que constitue le groupe État islamique. L'émissaire spécial américain au sein de la coalition, Nathan Sales, a dit que la réunion constituait un important tournant de la coalition vers l'un des plus importants fronts du combat. Alors que nous devons demeurer et rester concentrés sur la prévention de la résurgence du groupe État islamique en Irak et en Syrie, nous devons aussi nous pencher sur l'usage par ce groupe de ses branches et réseaux hors de son noyau d'origine, comme des plateformes à partir desquelles il entend poursuivre la lutte, a dit l'émissaire spécial Nathan Sales. Nulle part, cette tendance n'est aussi préoccupante qu'en Afrique. Si nous sommes engagés à défaire le groupe État islamique dans le monde, et nous le sommes, nous devons le confronter en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. L'émissaire spécial Sales a souligné que les attaques par les groupes affiliés au groupe État islamique se sont accrues en volume et en létalité en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Mais la bonne nouvelle, a-t-il dit, est que la coalition mondiale a démontré qu'elle est flexible et capable de s'adapter et de répondre à une menace changeante. Sur son propre terrain, il a dit que la coalition a développé une culture de coordination à travers les efforts militaires et civils, les initiatives bilatérales et multilatérales, pouvant compléter les autres initiatives antiterroristes dans la région. L'émissaire spécial Sales a souligné que, quelle que soit la manière dont 30 millions de dollars supplémentaires au cours de l'année prochaine, notre lutte commune contre la menace du groupe État islamique en
attend le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.